Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
What time is it now? Time is it now? What time is it now?
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous draft de Touchdown Actu avec un podcast, une division pour débriefer notamment la draft NFL 2023 qui a eu lieu il y a quelques jours à peine du côté de Kansas City dans le Missouri et on va s'intéresser à la toute dernière division qu'on n'a pas forcément débriefé au cours de cette QV 2023 avec notamment la NFC West toujours extrêmement intrigante avec les Arizona Cardinals, les Los Angeles Rams, les San Francisco 49ers et les Seattle Seahawks. C'est pour en parler au cours de cette émission et en ma compagnie, Nitinia Simong et des nôtres. Salut Niti.
Salut Grégory, salut à tous.
Énormément de choses à dire sur cette NFC West et on le sait, ça va plaire à beaucoup de gens. Voilà, on a déjà eu, je le disais lors du précédent podcast, beaucoup de réactions assez vives à l'écrit sur certains commentaires. Donc voilà, il faut s'attendre à avoir du sel dans cette émission, malgré tout, puisque, en effet, on n'aura pas forcément tout compris de notre côté à tout ce qui s'est passé, mais on tentera, en tout cas, de le développer au maximum pour faire comprendre, là encore, notre analyse, que, comme je le disais, là encore, voilà, il n'y a pas de vérité absolue, mais en tout cas, on essaye d'analyser une draft et de tenir compte des différents éléments, dans un premier temps sur du court terme, voire, pourquoi pas, sur du moyen long terme, en fonction de ce qu'on envisage pour les différentes franchises. On lance donc les hostilités, Nitti, avec notamment, donc, l'Arizona Cardinals, équipe très suivie, puisqu'en l'occurrence, auteur d'une intersaison assez discrète, hein, surtout marquée par les potentielles annonces de départ et de trade, hein, en l'occurrence DeAndre Hopkins en attaque et Buda Baker en défense. Il y avait quand même malgré tout pas mal de choix à disposition de Monty Osenfort et Jonathan Gannon, respectivement nouveau general manager et head coach des Cardinals. Et on a donc eu Paris Johnson, tackle d'Ohio State au premier tour, B.J. Ojulari, pass rusher d'LSU au deuxième, Garrett Williams, cornerback de Syracuse et Michael Wilson, receveur de Stanford au troisième. S'en sont suivis John Gain, the second, guard de UCLA au quatrième, Clayton Tune, quarterback de Houston et Owen Papo, linebacker d'Auburn au cinquième. Enfin, au sixième tour, Kytrell Clark, cornerback de Louisville, et Dante Stilts, defensive lineman de West Virginia. Beaucoup, beaucoup de choix. Il y a quasiment, j'exagère à peine, mais c'est tous les postes qui ont été sélectionnés. On a deux cornerbacks, mais à part ça, ça a été quand même assez vaste, ce qui a été entrepris par Arizona pour éventuellement, on va dire, prendre en considération les différentes positions au cours de cette draft. Est-ce que ça t'a convaincu malgré tout?
Voilà, tu as beau avoir 9 choix, après, il faut bien les utiliser, les 9 choix. Et là, du côté des Cardinals, ben, il y a, allez, on va dire un tiers dont je trouve que ça a été bien investi. Les deux tiers, là, j'ai des doutes. Je vais commencer par là, je vais commencer déjà par leur troisième tour avec Garrett Williams et Michael Wilson. Garrett Williams, c'est un très bon joueur, mais le problème, c'est qu'il a été blessé à Syracuse. Après, c'est un bon playmaker. Et il y avait un vrai besoin au poste de cornerback. Et est-ce que c'est lui, finalement, qui va remplacer des Rashad Fenton et être un complément ou remplacer même Marco Wilson, sachant que Byron Murphy est parti. Ça, c'est ça, là, j'ai un doute. Michael Wilson pour remplacer DeAndre Hopkins ou être un complément pardon, de DeAndre Hopkins et Marquise Brown, voire Rondale Moore. Là, pareil, j'ai des doutes là-dessus. On a pris Clayton Tune en tant que doublure. Pour moi, c'est un mini Colt McCoy. Bon, bref, ça reste une draft où j'ai beaucoup de questions et où j'ai aussi des certitudes.
Alors, en effet, il y a beaucoup de questions également de mon côté. Le talent des joueurs en tant que tel, là encore, c'est difficile de remettre certains éléments en cause, sachant qu'il y a quelques profils, notamment draftés assez bas, qui sont intéressants. Owen Papo sur le poste de linebacker peut contribuer assez rapidement, à mon sens. Même un Kytrell Clark, je pense, sur la position de nickelback, dans un profil différent, notamment d'Isaiah Simmons, peut éventuellement voilà, avoir des snaps assez conséquents au niveau de cette défense d'Arizona. Moi, il y a plusieurs questions que je me pose au sortir de cette draft. Alors, ça a fait beaucoup réagir, notamment lors du papier publié par Alex Locke sur les 10 pires choix de la
C'est
draft.
ça.
Voilà. Encore une fois, là aussi, c'est assez assumé. Il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est pour dire éventuellement les choix qui ont laissé le plus pantois, on va dire, globalement. Paris Johnson. En tant que tel, ça peut être un très bon prospect à au moins moyen terme. Je pense qu'au bout de 2-3 ans, ça peut être un solide titulaire. C'est plus déjà les circonstances. C'est-à-dire que on descend initialement du 3 au 12 et on remonte du 12 au 6. Alors, je veux bien envisager que d'autres équipes puissent avoir louché dessus, hein. J'avais identifié par exemple Vegas comme une équipe qui aurait pu suivre Paris Johnson. Peut-être qu'Arizona a voulu court-circuiter les Raiders. Maintenant, avec le nombre de besoins qu'ont les Cardinals, vouloir absolument monter pour aller chercher ce qui est, à mon sens, un tackle droit et pas forcément un tackle gauche, puisqu'a priori, DJ Humphries devrait rester le tackle gauche, c'est pas forcément le choix que je trouve le plus judicieux. Mais encore une fois, vouloir protéger Kyler Murray, surtout dans la situation actuelle, et vouloir éventuellement aider sur le jeu au sol, où là encore, pour le coup, il n'y a pas de running back sélectionné. Voilà, je veux pas encore taper bêtement et méchamment sur James Conner, mais voilà, je suis pas sûr que ce soit vraiment un running back numéro 1 d'envergure. Et en l'occurrence, on a l'air de se complaire avec ce choix-là du côté d'Arizona, avec un quarterback qui sera pas forcément à 100% et un running back qui sera peut-être pas vraiment établi pour être numéro 1 la saison prochaine. Donc en soi, prendre un tackle, pourquoi pas? Mais ça me paraissait en plus être un des postes les plus profonds, entre guillemets, hein, même si t'envisages peut-être de recentrer un peu Josh Jones. Pour moi, Kelvin Beachum peut relativement faire le boulot, lui qui est un vétéran assez établi de la ligue. Donc voilà, encore une fois, il y a un coup de cœur, il y a un coup de cœur, je peux l'entendre. Je vais pas répéter ce que tu as dit sur les choix du troisième tour, parce que Garrett Williams et Michael Wilson, ça peut être des très bons joueurs. La question, c'est de savoir combien de matchs ils vont jouer durant la saison. Et
Voilà, c'est ça.
c'est encore plus inquiétant, à mon sens, pour Garrett Williams quand on sait que le poste de cornerback sonne très creux du côté d'Arizona. C'est-à-dire qu'on reste dans une situation où potentiellement, à l'heure actuelle, les titulaires sont... Que je dise pas de bêtises.
Bah, il y a Rashad Fenton et Marco Wilson pour le
Voilà,
moment
c'est ça. Et peut-être dans une
et
moindre
après.
mesure, Christian
Voilà.
Mathieu, qu'on a vu un peu de temps en temps l'année
Ouais,
dernière, Chris Boyd qui est
c'est
arrivé.
ça.
Mais voilà, je veux dire, c'est si Garrett Williams arrive avec l'optique d'être cornerback numéro 1 assez vite, on a des grosses espérances du côté d'Arizona parce que malheureusement, il reste sur deux campagnes assez vite écourtées. Donc ça, c'est sûr que forcément, c'est difficile de l'occulter. Et puis, dernier point, ça, c'est plus en défense. Il y a deux choses qui m'intéressent par rapport à la sélection de Bijan Ojulari, qui est un joueur que j'adore. C'est la manière dont il fit dans la défense. C'est-à-dire, est-ce qu'on va jouer plus massivement sur de la 43 ou plus massivement sur de la 34 du côté d'Arizona? J'aurais pensé plus massivement de la 43, vu que Nick Ralis et Jonathan Gannon, respectivement coordinateur défensif et head coach, jouaient dans ce système-là du côté des Eagles. Auquel cas, Bijan Ojulari me semble pas forcément le defensive end le plus établi pour jouer sur un front 4. Ils peuvent jouer là encore sur une 34 et utiliser Bijan Ojulari de la manière dont il pouvait être le plus souvent utilisé du côté d'LSU. Mais là, du coup, j'ai l'impression que la ligne défensive est peut-être un peu légère pour jouer massivement sur du front 3. Donc cette question, c'est là-dessus où je me dis, bon, je demande à voir parce que forcément, il y a un nouvel organigramme qui arrive avec du coup une idée sans doute établie que moi j'ai pas. Donc. Bâcher, on va dire, une idée de jeu que j'ai pas clairement sous les yeux, c'est un peu facile. Mais c'est vrai que ça, comme tu dis, ça pose énormément d'interrogations et forcément ça amène à reconsidérer un petit peu cette draft. Et j'ai du mal à aller au-dessus d'impassable pour les Cardinals.
Bah je t'avoue que pour BJ Ojulari, moi j'avais bien aimé le choix. Et effectivement, et je confirme ce que tu as dit, c'est en fait bah finalement il va jouer où? Donc parce qu'en fait, tu as déjà sélectionné Mijaï Sanders et Cameron Thomas. Si c'est pour prendre après un BJ Ojulari, mais pas pour le faire jouer à son poste naturel dès sa première saison, le bonhomme, il va avoir un peu de mal en NFL par rapport, par exemple, à son frère, Azeez Ojulari, qui a trouvé sa place aux Giants. Et puis, bon, je vais pas encore développer sur Paris Johnson Jr. Il y avait des cornerbacks de disponibles. Ils n'ont pas voulu prendre un cornerback. Bon, tant pis pour eux. Après, hein, on va pas, on espère que
Après, on
Paris.
peut tirer plein de conclusions. On peut dire qu'ils avaient
Voilà.
Weatherspoon en 1 et Johnson en 2, et puis que Weatherspoon étant
Voilà.
parti en 5, ils se sont précipités. C'est une possibilité également. Mais c'est sûr que là aussi, malheureusement, ça reconditionne un petit peu tout le reste de la draft. Et je reprécise bien, hein, encore une fois, BJ Ojulari, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans un système. Mais la principale interrogation le concernant, c'était de savoir si on pouvait l'utiliser sur tous les snaps. Dans les premiers mois, ce qui pour moi me paraissait malgré tout envisageable en fonction de l'équipe où il tombe. À Arizona, en effet, je pense qu'il va avoir besoin de ce temps d'adaptation parce que très clairement, tous les plans de jeu, on dira, ne seront pas forcément adaptés en fonction de son positionnement sur le terrain. Donc c'est plus là-dessus où du coup, bah, ça m'interroge offensivement et défensivement, d'où ma logique.
Voilà, ouais. Après, bon, moi j'étais peut-être moins sévère que toi. J'ai mis encouragement car il y a quand même des joueurs qui sont enfin, que je trouve qui sont très bons et qui ont été sélectionnés pour voilà, donner de la qualité à l'équipe d'Arizona. Mais c'est vrai que quand tu avais déjà une équipe faible avant la draft et que quand tu ressors de la draft, t'as pas forcément une équipe plus forte. C'est vrai que passable aurait été une note plus juste. Donc je peux descendre entre guillemets à passable, même si encouragement me paraît pas déconnant non plus.
Ouais, on précise, hein. Alors là pour le coup on nous dit on bâche gratuitement, enfin on peut nous dire qu'on bâche gratuitement. Sur la majeure partie des mock drafts 2024 que j'ai vu sur des sites américains, Arizona est toujours listé numéro 1, hein. Donc
Ouais,
ça veut
bah
dire que forcément si on prend la logique de l'équipe qui se renforce post-draft, on n'est pas convaincu à 100% même s'il y avait beaucoup de besoins en arrivant. Ouais.
Bah si, le but de la draft était de cumuler des choix de draft pour la draft 2024, alors là, Arizona aurait eu les félicitations, hein,
Oui, là au moins
ça c'est
ouais, ils ont
sûr.
au moins deux premiers tours. Là, c'est sûr que techniquement,
Ouais.
on peut pas critiquer cette situation. Je te rejoins.
Ouais. Voilà, ils peuvent dire merci à Houston pour l'an prochain, probablement.
Tout à fait. On passe au Los Angeles Rams. Alors, j'ai bien fait de boire de l'eau juste avant parce que là, on va arriver sur. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choix de draft. Est-ce que ça nous a convaincu, c'est autre chose? Donc, 14 choix hein, au total pour les Los Angeles Rams, une équipe qui, on le rappelle, n'était pas habituée à considérer vraiment cet événement-là. Là, on s'est fait plaisir, notamment le samedi. Hein, je pense que Les Snead.
Alors là, il y en a eu beaucoup,
Ah
ouais.
oui, il a dû avoir l'oreille qui a fumé, là, ouais, qui fumait au bout d'un moment. Donc, on a Steve Avila, lineman offensif de TCU au deuxième tour. Byron Young, edge rusher de Tennessee. Et Kobe Turner, defensive lineman de Wake Forest au troisième. Stetson Bennett, quarterback de Georgia, sélectionné au quatrième. On a ensuite au cinquième tour Nick Hampton, edge rusher d'Appalachian State, Warren McLendon, tackle de Georgia, Davis Allen, tight end de Clemson et Puka Nakua, receveur de BYU. Au sixième tour, Trevius Augee-Tomlinson, cornerback de TCU, Auchan Mattis, defensive end de Nebraska et Zach Evans, running back d'Ole Miss. Et puis enfin au septième tour, on a Ethan Evans, punter de Wingate. Jason Taylor, the second safety d'Oklahoma State, et Deswan Johnson, defensive lineman de Toledo, qui est d'ailleurs, je crois, le Mister Irrelevant cette année, si je ne me trompe pas.
Exactement, ouais, Mister Relevant.
Alors, beaucoup, 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 beaucoup de choix du côté des Rams. Là encore, comme Arizona, on a une intersaison plus ou moins discrète, hein. Quasiment pas de joueurs signés pendant le marché de la free agency. Là encore, ça va un peu biaiser notre jugement parce qu'il y aura sûrement plus d'actions post-draft qu'avant. Comment tu juges cette QV globale de Los Angeles?
Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de joueurs. Après, c'est ce que j'ai dit comme Arizona, il faut aussi bien les utiliser. Et là, en fait, Les Snead et Sean McVay ont utilisé leurs 14 choix. Et en fait, j'ai l'impression qu'à la fin, bah, je ne sais pas dans quelle direction ils vont. Parce qu'en fait, Steve Avila et Byron Young et Kobe Turner, c'était très bien. Alors après, leur troisième joueur, alors là, c'est allé un peu dans tous les sens. On a pris un edge rusher encore, on a pris un cornerback qui est très bon, très vieux, Tre'Davious Tomlinson. Ils ont pris Davis Allen et Puka Nacua, deux joueurs qui n'ont pas été très bien utilisés à Clemson et BYU, donc on va voir ce qu'ils valent à Los Angeles. Ils ont pris un running back qui est plutôt un vrai style pour moi, c'est Zach Evans. Après, voilà, ils ont pris des joueurs. Il y a certains, dont les trois derniers, j'ai pas vraiment étudié leur profil. Mais par contre, sur les autres choix, notamment un tackle seulement au quatrième, cinquième tour, il me semble, c'est Warren McLendon, alors que le besoin était plutôt là. J'aurais aimé que Los Angeles considère les lignes avant de pouvoir s'attaquer à des receveurs ou des tight ends pour plus tard.
Alors, c'est un peu délicat en effet, comme tu le dis, à analyser. Il y a un peu à boire et à manger, donc du coup pour un peu se poser et regarder ça. Moi, c'est un peu la même logique que je disais pour d'autres équipes, c'est-à-dire que Sean McVay étant un coach à mentalité plutôt offensive, vu les besoins urgentissimes qui commençaient à y avoir en défense. Alors, je veux bien que Aaron Donald soit Aaron Donald, je veux bien qu'il y ait des soucis au niveau du salary cap, mais déjà commencer par un choix offensif. Ce qui peut se respecter en l'occurrence, hein. C'est vrai que on a utilisé beaucoup de linemen offensifs un peu en rotation. Enfin, voilà. On peut dire qu'il y a de la polyvalence sur la ligne offensive. Après, qu'il y ait des titulaires vraiment établis sur tous les postes, j'en suis pas persuadé. Donc, prendre un joueur comme Steve Avila qui peut en être un relativement rapidement en début de deuxième tour, pourquoi pas malgré les besoins criants qu'il y avait sur beaucoup de positions. Maintenant, si je regarde, certes, sur les 14 choix, il n'y a que 6 joueurs offensifs. Mais les 6 joueurs offensifs, en tout cas beaucoup de joueurs offensifs, arrivent relativement rapidement. Puisque, en effet, on a un guard, un quarterback, un tackle, un tight end et un receveur à l'issue du cinquième tour. Donc, j'ai pas de mal à me dire qu'en effet, faut entourer efficacement Matthew Stafford pour éventuellement remettre un peu cette équipe sur les bons rails. Mais on a cassé du sucre sur le dos de Raheem Morris en 2022 à raison. C'est pas avec le groupe qu'on est en train de lui donner qu'il faut s'attendre à une nette progression de par ce qu'on envoie. Là encore, on parlait du poste de cornerback Arizona. Du côté des Rams, ça fait peur parce que Otis Tomlinson, ça peut être un nickelback qui peut éventuellement s'intégrer dans la rotation. Mais tes titulaires aujourd'hui, encore aux dernières nouvelles pour moi, c'est Kobe Durant et Darian Kendrick.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que la défense des Rams qui a pris très cher l'an dernier, ben là, c'est vrai qu'elle ne sort pas grandie après cette draft parce que ils ont considéré les lignes défensives, mais c'est vrai que la partie linebacker et la partie cornerback safety, c'est très léger, hein. C'est vraiment léger. C'est vrai que alors l'attaque n'a pas plus brillé. La saison dernière, bon, j'imagine qu'ils vont être meilleurs cette année, mais c'est vrai que la défense, par exemple, pour remplacer Jalen Ramsey, ben, ils ont pris seulement un cornerback qui est Tre'Davious Tomlinson. J'aurais aimé qu'ils considéraient ce poste avant, on va dire, plus dans les premiers tours, vu la QV de cornerback qu'il y avait cette année. Donc c'est vrai que à la sortie de cette draft, pour moi, déjà, pour moi, les Rams ne m'ont pas vraiment convaincu. Il y a des joueurs très bons, mais est-ce qu'ils vont contribuer dès la première année, pour certains, ça, j'en doute.
Non, et puis ouais. Enfin, très, très honnêtement, alors je suis moins les Rams que d'autres, bien entendu, mais je suis incapable aujourd'hui de savoir défensivement comment on joue. Surtout que sur la ligne défensive, tu avais déjà des joueurs qui avaient démontré certaines choses l'année dernière qui pouvaient éventuellement, enfin, je dis sur la ligne défensive, en tout cas sur le front seven plus globalement, mais des Michael Hucht, des Jonah Williams qui pouvaient justement avoir un peu plus de temps de jeu. Tu réinsères un Kobe Turner relativement haut. Sur un profil ligne défensive, etc. Et en fait, tu te retrouves avec un groupe de linebackers, par exemple, que je trouve vraiment à l'abandon. Enfin,
Ouais,
à part
c'est
peut-être
ça.
Ernest Jones l'année prochaine, je sais pas avec qui ils vont tourner en linebacker, mais ça me paraît extrêmement léger sur le papier. Le poste de corner, on vient d'en parler. Donc, vraiment, c'est une draft où je me dis, enfin, il y avait des choix à faire éventuellement. J'ai blagué, par exemple, en live sur le fait de prendre un quarterback remplaçant. Mais par exemple, au lieu d'aller chercher un Stetson Bennett aussi haut en quatrième tour, Je pense que tu avais la possibilité éventuellement de blinder d'autres postes. Alors, il y avait un besoin sur le poste de pass rusher, ils vont en chercher trois. Mais ouais, enfin, pour le coup, Auchan Mathis, ça a été une longue traversée du désert malgré ses qualités athlétiques ces derniers mois. Nick Hampton, on a vu que ça pouvait être un pass rusher un peu exclusif, mais il faudrait lui faire peut-être un petit peu d'autres choses. Et c'est là où on va peut-être avoir besoin qu'il se développe en l'occurrence. Peut-être un profil athlétique qui reste un peu relatif par rapport aux autres. Et Byron Young qui reste un projet qui a vraiment explosé du côté de Tennessee ces derniers mois, mais dont l'échantillon est relativement faible, on va dire, en première division universitaire. Donc vraiment, c'est très sévère hein, ce que je vais dire, mais j'ai du mal à aller au-dessus de mauvais du côté des Rams. Hein.
Non, après, moi, j'ai mis passable, hein, effectivement, pour les Rams, parce qu'il y a tout de même des bons choix, comme Steve Avila, Baron Young, comme tu as dit, ou Trevius Augustin-Nielsen. Mais c'est vrai, comme j'ai dit, moi, mon évaluation, c'est est-ce qu'après la draft, l'équipe ressort renforcée? Là,
Ils avaient
effectivement,
personne.
c'est vrai que, ouais, alors, tu vois, à part, après Cooper Kupp, tu vois, pareil, si ton deuxième receveur, c'est tu mises sur Van Jefferson ou Tutu Atwell, alors Puka Nacua que tu vas amener, je sais pas comment tu vas l'utiliser,
Jefferson,
mais
on a déjà vu un certain échantillon, notamment en 2021. Mais c'est vrai que
ouais.
derrière, encore une fois, moi, ce qui me fait peur dans cette équipe-là, c'est que les titulaires, c'est pas hyper rassurant. Mais si t'as des blessés. Mais tu te mets en boule et tu cries fort, hein, parce que ça va être compliqué, ça va être une saison compliquée.
Donc, il vaudrait mieux que pour l'an prochain, ils conservent leur premier tour parce que je vois pas vraiment dans cette division qui est très compétitive pourtant si les Rams vont avoir un meilleur bilan que ce qu'ils avaient l'an dernier après cette draft. Donc après, ça c'est pas moi qui vais juger lors de la saison régulière, mais c'est vrai qu'il y a de quoi être un peu inquiet quand même après la draft des Rams, après une free agency très discrète. Comme j'ai dit, on ne sait pas trop où ils vont.
Oui,
Donc déjà,
mais
rien qu'avec cette phrase, je sais.
voilà, non, mais et j'insiste vraiment là-dessus. C'est sûr que là, ça peut paraître assez sévère, et là encore, ça va très mal vieillir parce que je suis persuadé qu'avec la situation salariale qui est celle des Rams aujourd'hui, le but du jeu, c'est vraiment de miser sur des contrats de très courte durée avec des joueurs qui sont encore agents libres pour vraiment essayer de réassembler et de compléter cet effectif-là. Donc, c'est à prendre en considération. Mais encore une fois, je le répète, on est obligé de débriefer cette draft au sortir de l'événement, de voir un petit peu comment l'équipe s'est développée. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que les Rams sortent vraiment grandis, je trouve, de cette draft-là, alors qu'ils ont 14 choix et qui récupèrent même, pardon, quelques choix intéressants, notamment sur l'équipe spéciale. Parce que prendre Christopher Dunn en kicker et Alex Ward en long snapper sur des joueurs non draftés, c'est pas forcément une mauvaise opération pour Los Angeles.
Non, effectivement, après, t'as beau avoir un salary cap peut-être très mauvais, mais essaye de bien utiliser les petits contrats sur des joueurs qui peuvent avoir potentiellement un long contrat pour les saisons prochaines. Là, j'ai pas l'impression, après cette draft ou même après la QV de free agent non drafté qu'ils ont pris.
On passe au San Francisco 49ers. Là encore, ça fait jaser, comme on dit dans le jargon. Avec notamment donc trois troisième tours, J.R. Brown, safety de Penn State, Jake Moody, kicker de Michigan, et Cameron Latu, tight end d'Alabama, donc en fin de troisième tour. On avait ensuite au cinquième tour Darrell Luther Jr., cornerback de South Alabama, et Robert Beal Jr., linebacker de Georgia. Au sixième tour, Dee Winters, linebacker de TCU. Et puis enfin pour finir au septième tour, Braden Willis, tight end d'Oklahoma, Ronnie Bell, receveur de Michigan, et Jalen Graham, linebacker de Purdue. On va dire deux vrais linebackers dans cette classe, deux tight ends. Qu'est-ce que tu en penses globalement? Alors, c'est vrai que forcément, ce qui fait beaucoup réagir, c'est cette élection de Jake Moody, le kicker au troisième tour. Est-ce que ça t'a convaincu globalement? Qu'est-ce que tu penses plus globalement de ces neuf choix réalisés par John Lynch et Kyle Shanahan?
Alors, les 49ers, ils ont une très belle équipe. Ils ont de très bons titulaires. Et c'est une équipe qui est proche de gagner un Super Bowl. Le but de cette draft pour les 49ers, après une free agency où ils ont notamment pris Javon Hargrave, c'est de donner de la concurrence à un effectif déjà de qualité. Et là, après cette draft, eh ben, j'ai l'impression que la concurrence en a pris un coup. Parce que. Là, clairement, je vois aucun joueur qui ne va donner une valeur ajoutée à l'équipe des 49ers après cette draft. À part peut-être Dee Winters, effectivement, le linebacker. Mais sinon, les autres joueurs, même si je sais que vous aimez beaucoup Jair Brown et même Jake Moody, les autres joueurs ne vont être que des potentiels doublures, ou mais pas des solides titulaires. Après, les 49ers sont spécialistes, hein, des joueurs qui ont été draftés au 5e, 6e tour et qui sont devenus de très bons joueurs. Je pense notamment à Hufanga ou encore à George Kittle sur le poste de tight end. Mais là, clairement, par rapport à la draft qu'ils ont fait, les 49ers, il y a des choix qui ont fait jaser. Mais même sur l'ensemble de la draft, il n'y a aucun choix, voire un ou deux, allez, qui m'ont convaincu.
Alors, je suis d'accord avec toi, notamment sur la logique de dire que forcément, on n'est pas dans la même logique quand on analyse la draft des Niners que quand on analyse la draft des Cardinals et des Rams, par exemple. Parce que, en effet, il y a un effectif qui est relativement complet, et c'est plus avec l'avantage d'avoir trois troisième tours à la fin de la soirée du vendredi, le fait de vraiment pouvoir un petit peu bonifier tout ça. Alors, on va s'occuper de l'éléphant dans la pièce, hein, comme on dit outre-Atlantique. En effet, Jake Moody, ça fait réagir parce que un kicker, généralement, on trouve que ça fait haut à partir du troisième tour. On l'a déjà dit assez souvent, les expériences passées, notamment voilà, pour dans un passé assez récent, Roberto Aguayo, qui était sélectionné au deuxième tour, donc c'est encore proportionnellement un peu plus notable. Mais voilà, c'est sûr que malheureusement, les trajectoires font que, un peu comme les running backs, on a l'habitude de dévaluer un peu la position. Moi, j'ai pas de mal à me dire que si ton équipe est relativement complète, une fin de troisième tour ou un début milieu de quatrième, en soi, c'est pas infamant, surtout qu'en effet, t'as laissé partir Robbie Gould, qui avait un rôle extrêmement important dans cette équipe de San Francisco. Donc, aller chercher un kicker qui peut potentiellement te permettre d'être clutch et de bonifier certaines actions, notamment dans les fins de match, ça me paraît pas forcément déconnant. Tu l'as dit, moi, Jair Brown, j'adore. Je pense que dans un profil peut-être un peu plus petit, il a beaucoup d'attributs qui ressemblent à Tashaun Gibson. Et je pense que vraiment, il peut constituer, je vais y arriver, un duo assez complémentaire dans un futur assez proche avec Talanoa Hufanga. Donc ça, là-dessus, je suis la logique. Le troisième choix du troisième tour, par exemple. Alors, j'ai rien contre Cameron Latou, qui peut apporter énormément de choses, qui peut être un bon fullback, tight end. On a vu du côté d'Alabama qui savait faire énormément de choses. Ça me fait un peu plus tiquer dans le sens où, en plus, tu vas chercher un tight end un peu plus loin. Ça t'empêche pas d'avoir de la profondeur avec un joueur un peu plus établi. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être plus louché sur, par exemple, un tackle au niveau de la profondeur. Ça aurait peut-être été un besoin un peu plus notable. Surtout que j'ai rien contre Matt Pryor, qui a priori est peut-être le joueur le plus établi sur cette position-là. Et voilà, que ce soit Pryor, McKivitz, dans les joueurs qui constituent actuellement l'effectif, je ne sais pas si vraiment tu auras un joueur assez établi. Et là encore, c'est un souci de blessure, ça peut rapidement se gâter pour San Francisco. Même si on sait que sur la ligne offensive, voilà, Kyle Shanahan peut quand même relativement maîtriser et trouver des solutions pour parier à toute éventualité. Voilà, c'est plus éventuellement dans cette logique-là. Après, il y a plus, voilà, c'est plus sur du profil special teamer, c'est plus des joueurs qui vont apporter de la profondeur. En effet, le poste de cornerback, justement, sur la profondeur, ça n'a pas forcément fait de mal. Mais en l'occurrence, ils vont chercher un joueur au cinquième tour, donc voir éventuellement comment peut se développer Luther Junior. C'est là, en effet, où c'est un peu compliqué du côté de San Francisco. Je suis un peu entre l'encouragement et le passable, parce que, encore une fois, je trouve que malgré tout, il y a des postes qui renforcent. Est-ce qu'il les renforce dans l'immédiat ou dans un futur un peu plus lointain? C'est surtout là que la question se pose. Mais voilà, je vais rester peut-être sur pas ça parce que je te sens un petit peu sur la retenue.
Bah moi en fait justement le trade pour un safety, ouais. Jay Brown, je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Personnellement, je sais pas, ils voulaient surpasser qui, enfin quelle équipe.
Je le défends d'amour, hein, Jair Brown. Donc moi, tu me vends un trade pour un premier tour, je le prends.
Bon, au moins, fans des 49ers, au moins vous avez un supporter pour défendre le joueur. Non, mais après j'aime bien le joueur, il y a pas de problème. Mais j'avoue, j'avais pas compris la stratégie du trade. Et après, effectivement, deux tie-ins. Alors, justement, des deux tight ends qu'ils ont pris, Brandon Willis convenait plus pour moi au système que Cameron Latou, personnellement, puisque Willis est un bon receveur. Hein. Cameron Latou, c'est vrai qu'il a fait quelques réceptions, mais même pour le jeu de course, je préfère plus le joueur d'Oklahoma que celui d'Alabama. Moi, je t'avoue qu'après cette draft des 49ers, je t'avoue que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à avoir la valeur ajoutée. Donc, moi, j'ai mis mauvais, personnellement, mais je peux pas aller plus loin.
Très bien. Non, mais
Je peux pas aller
ça
plus
s'entend, ça s'entend.
loin.
Je crois que certains t'ont rejoint là-dessus. Moi, juste pour terminer là-dessus, pour pas faire trop long, et après on va passer aux Seahawks. Le choix qui me fait le plus tiquer, c'est peut-être celui de Robert Beal, dans le sens où c'est vraiment un pass rusher quasi occasionnel, et c'est surtout un linebacker, surtout un edge plutôt axé sur de la 34. Donc j'ai hâte de voir comment San Francisco va potentiellement l'utiliser. Il peut être utilisé notamment sur des phases de jeu assez spécifiques. Mais voilà, c'est sûr que c'est un joueur qui, je pense, va peut-être avoir du mal à être un titulaire. Je le souhaite aux Niners, bien entendu. Mais voilà, c'est plus un joueur qui va être axé sur du special teamer et un joueur de complément qu'autre chose. Je pense que voilà, s'il fait le boulot, vu les classes de pass rusher qu'on a eues du côté de San Francisco ces dernières années, les fans en seront relativement très contents. On termine à NFC West avec les Seattle Seahawks, avec là encore pas mal de choix. On avait au premier tour Devon Witherspoon, cornerback d'Illinois, et Jackson Smith-Njigba, receveur d'Ohio State. Au deuxième tour, Derrick Hall, defensive end de Auburn, et Zach Charbonnet, running back de UCLA. Quatrième tour, Anthony Bradford, garde de LSU, pardon, et Cameron Young, defensive tackle de Mississippi State. Mike Morris, edge rusher de Michigan, et Olusegun Oluwatimi, centre de Michigan, là également, tous deux sélectionnés au cinquième tour. Jerry Creed, second safety de New Mexico au sixième, et Kenny McIntosh, running back de Georgia au septième. Les observateurs ont eu tort, Nitti, on attendait un running back du côté de Seattle, on en a eu deux.
Et ouais, on a eu deux. Alors, les deux running backs sélectionnés pour donner de la concurrence à Kenneth Walker III, et ben, je pense que Kenneth Walker III va conserver sa place puisque Zach Charbonnet, bon, c'est un bon joueur, mais au deuxième tour, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de le sélectionner à ce moment-là. Il aurait été sans doute dispo peut-être un peu plus tard. Et puis, pourquoi lui aussi, sachant qu'il y avait d'autres running backs de disponibles s'il fallait prendre un running back. Et puis Kenny McIntosh, il manque un peu d'envergure. Est-ce qu'il va sans doute contribuer d'abord aux équipes spéciales? Après, moi j'ai bien aimé les trois premiers choix des Seahawks, Witherspoon, Smith-Njigba, Derrick Hall, très bien. Après le reste, à part les deux joueurs de ligne offensive, je t'avoue que qu'ils vont peut-être plus apporter dans la rotation, mais c'est moins convaincant, on va dire.
Ouais, je suis assez intrigué par beaucoup de choix. Moi, je t'avoue directement, je partirais quand même sur un bon complément du côté de Seattle. C'est sûr qu'il y a toujours cette question du running back au deuxième tour sur une classe profonde, sachant que tu as un coureur titulaire. On peut pas dire que du côté d'Atlanta, par exemple, c'est cher payé un huitième choix et dire que du côté de Seattle, c'était donné. Même si on a vu que Kenny Walker pouvait aussi être amené à être blessé de temps en temps. Donc voilà, c'est pas plus mal d'avoir une autre option qui peut être compétitive si besoin est. Smith-Njigba pour moi bah forcément c'est une des très bonnes pioches du premier tour pour assister Geno Smith, je pense que ce sera pas forcément déconnant. Et mine de rien, alors sur la ligne défensive, je suis très intrigué par Cameron Young qui je pense peut être un vrai steal, surtout qu'il n'y a pas une énorme concurrence sur ce poste-là, hormis peut-être Brian Mooney sur l'intérieur du premier rideau. Sur le reste, je trouve que le backfield défensif, ça commence à avoir de la consistance avec l'arrivée de Devon Witherspoon. Le deuxième rideau, on sait que le poste d'inside a été considéré, notamment pendant la période de la free agency. Là, sur l'extérieur, tu rajoutes encore un petit peu plus de pression avec Derrick Hall, qui, à mon sens, était peut-être plus configuré pour de la 34 que de la 43, enfin, en tout cas sur un rôle un peu plus excentré. Voilà. Et sur la ligne offensive, en effet, sachant qu'on a un Evan Brown qui est arrivé pendant l'intersaison, pendant la free agency, qui peut jouer un peu garde ou centre, j'ai l'impression qu'en fonction de Bradford ou de Oluwatimi, en fonction de celui qui performe le mieux, il y a moyen de récupérer des snaps en fonction sur l'intérieur. Donc peut-être qu'en effet sur la ligne offensive, ça aurait pu être un peu plus considéré, un peu plus priorisé par exemple que le running back au deuxième tour. C'est peut-être là-dessus par exemple où j'aurais tendance à tiquer un peu. Après franchement, il n'y a rien qui me choque globalement sur ce qui a été fait par Seattle. Et là pour le coup, je trouve que c'est une draft où tu bonifies ce qui a été fait en amont. Il y a deux premiers tours qui ont été très bien investis, donc honnêtement, voilà, aller plus bas que compliment pour moi c'est un peu compliqué, donc pour moi ce sera de solides compliments pour Pete Carroll et John Schneider.
Non, je te rejoins, effectivement. Peut-être que la sélection de Witherspoon au cinquième choix pouvait
ça peut paraître
faire, haut. Ouais, peut-être paraître haut, mais finalement, on comprend la logique parce que après, il sélectionne Jackson Smith et Jigba. Finalement, c'est vrai que quand on regarde la saison dernière de Seattle, à part Tarek Woolen, poste de cornerback, il n'y avait pas vraiment un deuxième cornerback qui peut être un autre playmaker. Alors, attention à la défense de Seattle parce que, honnêtement, avec Derek Hall et Witherspoon qui renforcent une défense où il y avait déjà de très bons joueurs. En plus, avec l'arrivée de Draymond Jones et Bobby Wagner, c'est vrai que Seattle, attention, ça peut devenir une deuxième Legion of Boone pour peut-être la saison prochaine. Attention.
On leur souhaite, en tout cas. Donc, tu es sur compliment également. Hein.
Ouais, compliment. Compliment, okay. Solide compliment également. Ouais.
Très bien. Bah, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, globalement, de cette division NFC West. Et donc de l'ensemble des divisions NFL à l'issue de cette draft 2023. Je te remercie en tout cas, Niki, d'avoir été en ma compagnie au cours de ces deux derniers podcasts. Et puis, merci encore, pardon, à tous ceux qui ont animé toute cette période draft. Je vais oublier des noms, donc voilà, je vais éviter de tous les citer. Je les ai déjà cités lors du live. Je veux pas vexer des gens. Donc voilà, merci encore en tout cas infiniment à vous tous, que ce soit les animateurs ou en tout cas également les auditeurs. On sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi l'événement en live, beaucoup de dons qui ont été faits, notamment beaucoup d'abonnements, notamment à la chaîne Twitch. Et on vous en remercie jour après jour d'être aussi fidèles et aussi présents pour nous accompagner au cours de cette deuxième saison, hein, NFL, parce que c'est toujours très particulier. Il y a la période septembre, janvier, on va dire, et la période février, avril, où ça reste extrêmement animé sur le site. Donc, c'est aussi grâce à vous. Et puis, nous, on se retrouve dans quelques semaines, notamment pour lancer les hostilités de la pré-saison au niveau de la NFL et pour justement suivre un petit peu plus l'intégration de ces différents rookies au sein de la Ligue Niti.
Exactement. Et puis, il y aura bientôt une mock draft 2024 qui sera publiée sur le site. Et puis aussi, la revue de la draft 2023 par rapport à ce qu'on avait prédit un an avant. Donc, n'hésitez pas à suivre sur le site.
Parce qu'encore une fois, on n'hésite pas à dire si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est pas grave, on revient là-dessus. Moi, je l'ai toujours dit. Voilà. J'en ai sorti des conneries, notamment sur les quarterbacks lors de la draft. C'est pas grave, on est là pour échanger entre fans et c'est le plus important. Le reste, on s'en fout un peu. Voilà. L'essentiel, c'est pas de se prendre trop au sérieux non plus, surtout dans ce genre de situation, la draft, où encore une fois, des general managers sont payés très très cher pour parfois prendre des décisions ô combien loufoques. Merci encore, Niti. Merci à tous et à très vite, en tout cas, sur les antennes de TDA. Ciao.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.